Voici les titres du journal.
Hier, au Grand Conseil vaudois, les députés ont voté en faveur de la fin de la solidarité fiscale. En cas de séparation ou de divorce, si l'époux ou l'épouse ne s'avère plus solvable, les dettes ne devraient plus être reportées sur l'ex-conjoint. Le Valais émet chaque année 5,5 millions de tonnes de CO2, soit 12 tonnes par habitant, sans les chiffres des grandes industries. C'est ce qui ressort du bilan carbone présenté hier à Sion par le Conseil d'État. Promotion Santé Valais lance sa campagne de prévention contre les lootbox dans les jeux vidéo avec 3 films de prévention. Elle s'attaque à ce type de récompense aléatoire que l'on achète avec de l'argent réel. En football, l'avenir du Bellerin Benjamin Cololi n'est pas encore fixé. En fin de contrat du côté du FC Zurich, le Chablaisien est libre de tout engagement mais n'a pour l'heure signé aucun contrat.
Et pour la météo, du soleil et des températures très chaudes pour cet après-midi, un orage n'est pas exclu en montagne. Pour demain, encore un temps ensoleillé et chaud, mais des orages qui pourraient également concerner la plaine. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Blom. Bonjour Valérie.
Bonjour. Le partage équitable des dettes fiscales entre conjoints pourrait devenir de l'histoire ancienne. Les députés ont voté hier en faveur d'un postulat de la socialiste Muriel Thalmann qui réclamait la fin de cette dette solidaire. Le texte pointait cette pratique qui finit souvent par se retourner contre les femmes alors que leurs revenus sont parfois moins importants que ceux de leur ex-mari. Explication avec la députée depuis.
La solidarité fiscale, c'est le fait de demander au conjoint qui est solvable de payer les dettes fiscales du conjoint qui n'est pas solvable. Donc c'est la possibilité de se retourner vers le conjoint qui a déjà payé sa part pour qu'il paye la part du conjoint qui ne paye pas sa part.
Et on imagine bien que c'est les femmes, a priori, qui sont péjorées souvent dans certaines situations.
En tout cas, tous les cas qui ont été portés devant la Cour de droit administratif public, ce sont des femmes, effectivement. Mais on n'a pas vraiment de statistiques dans ce domaine. Mais c'est souvent la partie la plus faible. C'est la raison aussi pour laquelle la Confédération et 17 cantons ont décidé de ne plus pratiquer ainsi. Et c'est souvent les femmes, effectivement, qui sont appelées à payer les dettes de leur ex-conjoint.
Alors de quoi il a été question ce matin alors par rapport à la discussion de ce texte ?
La demande qui est introduite, c'est de pratiquer comme la Confédération et comme le font 17 cantons suisses. C'est donc à partir du moment où il y a la séparation, on refait un calcul en fonction du revenu et puis du salaire de la personne et on lui attribue les dettes fiscales en fonction de son propre revenu et de son propre salaire. Et donc chacun paye sa part, c'est tout ce que nous demandons.
Et l'objet finalement a pu être accepté relativement facilement.
Oui, c'était soutenu par la droite comme par la gauche, parce que ça paraît effectivement une injustice. Et quand on voit que la Confédération et une grande partie des cantons ont renoncé déjà à cette pratique, parce que c'était vraiment mettre dans le pétrin la partie la plus faible.
On avait donc une motion qui a été transformée en postulat. Voilà, le texte est entre les mains du Conseil d'État. Qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Le Conseil d'État devrait donc suivre la demande de la majorité qui est trouver une solution, proposer-nous quelque chose qui permette de rétablir l'équité et puis d'arrêter avec cette pratique.
Muriel Thalmann au micro de Joël Espy. Le texte a été accepté à 105 voix pour, 30 contre et une abstention au Grand Conseil vaudois. Aucun cas de sous-enchère salariale ou sociale généralisée n'a été relevé dans le canton de Vaud en 2020. C'est ce qui ressort du rapport annuel de la commission tripartite cantonale chargée des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne. L'an passé, 1540 entreprises ont fait l'objet de contrôles dans le canton. De nombreuses infractions aux salaires minimaux ont fait l'objet de demandes de rattrapage. Et 131 sanctions ont été prononcées à l'encontre de prestataires de services étrangers proposant leurs services sur territoire vaudois sans respecter les règles légales ou conventionnelles. La fin de l'année scolaire va certainement être célébrée à Sion, même si la fête des étudiants n'a pas pu être mise en surpied en raison des mesures sanitaires. Les autorités s'attendent tout de même à une forte affluence au cœur de la ville. Afin d'éviter que ce rassemblement ne soit gâché par des fauteurs de troubles, l'accès à la place de la Planta sera contingenté demain et vendredi. La police sera présente pour s'assurer que tout se déroule de manière festive.
Le Conseil d'État valaisan a posé le premier jalon de son plan climat.
Il a présenté hier à Sion son bilan carbone. Chaque année, 5,5 millions de tonnes de CO2 sont émises en moyenne dans le canton, soit 16,2 tonnes par habitant. Un chiffre qui tombe à 12 tonnes par valaisan en excluant les émissions des grandes industries. De quoi placer le Valais dans la moyenne suisse, comme l'explique Roberto Schmitt, président de la délégation du Conseil d'État à l'énergie et à la durabilité.
La lecture est que nos émissions directes et indirectes actes en Valais sont à peu près dans la moyenne suisse. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agir plus vite que les autres cantons, parce que le Valais est particulièrement touché par le réchauffement climatique. On a beaucoup de problèmes avec les dangers naturels, on a un recul des glaciers, on a des inondations, on a des éboulements. Ça veut dire que le Valais, il a chaque année beaucoup de dégâts dans ce domaine. Alors, si on agit plus vite que les autres, on arrive aussi à freiner un peu ces dépenses et puis à assurer la population.
Vous l'avez dit aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle pour le Valais, ce réchauffement climatique, qui l'impacte énormément. Mais à l'inverse, aussi une bonne nouvelle pour pouvoir agir et l'État du Valais a envie d'agir.
Tout à fait. Je crois qu'il faut aussi prendre les opportunités de ce changement climatique d'une part, mais après, la volonté du gouvernement d'agir rapidement pour justement faire face à cet échauffement climatique. On veut savoir quelles mesures on peut prendre pour réduire les émissions d'une part, mais d'autre part aussi quelles mesures on peut prendre pour s'adapter finalement au réchauffement qui restera. Il restera toujours un réchauffement climatique dans ce monde, mais on doit s'adapter. Ça veut dire l'agriculture doit s'adapter, les producteurs d'énergie doivent s'adapter, même les communes pour l'eau potable doivent s'adapter parce qu'on aura moins d'eau. Ça veut dire qu'on a un certain défi pour s'adapter à ce réchauffement climatique et là aussi on veut connaître les mesures.
Parmi les secteurs avec plus d'émissions de CO2, il y a les Valaisannes et Valaisans, les biens et services que les Valaisannes et Valaisans utilisent. Là, c'est difficile pour l'État du Valais d'agir, on est plutôt dans l'incitation.
C'est clair, tout d'abord c'est l'incitation, mais on espère quand même avec les ateliers participatifs de bien sensibiliser la population qu'il est temps d'agir. Et d'ailleurs, on constate que la population valaisanne, elle agit déjà actuellement. Si je prends par exemple comme exemple le programme bâtiment, assainir les bâtiments qui sont responsables encore aujourd'hui pour 25% des émissions, là on constate quand même que beaucoup de Valaisans profitent maintenant de ces subsides pour assainir, pour changer leur chaudière avec une pompe à chaleur ou se raccrocher à un réseau de chauffage à distance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui se fait déjà. Aussi dans le domaine de la mobilité, les gens ils prennent beaucoup le train, ils achètent des voitures électriques hybrides, ils installent des bornes à échange. Mais pour le moment, tout est passé par incitation. Et on verra si ça suffit ou bien si dorénavant, dans les lois, on doit aussi essayer de mettre quelques mesures contraignantes pour mettre un délai, voilà, pour faire face à ces défis.
Le plan climat valaisan sera présenté l'an prochain au Conseil d'État qui devra le valider. Rappelons que la Confédération souhaite réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. C'était un sujet réalisé par Didier Morard.
Promotion Santé Valais se lance dans une nouvelle campagne de prévention.
Il s'agit cette fois de sensibiliser au loot box, cette pochette surprise virtuelle que l'on peut retrouver dans de nombreux jeux vidéo gratuits. Ce phénomène peut causer des problèmes d'endettement auprès des jeunes, mais aussi une addiction. Explication de Léa Journeau.
Imaginez, vous êtes en train de jouer à votre jeu vidéo favori, vous êtes bien installé, vous vous apprêtez à combattre un gros joueur ou alors à affronter le boss du niveau 2 et là, il vous manque l'arme décisive ou la carte idéale. La tentation d'aller dans la boutique du jeu pour acheter le coffre ou le paquet de cartes est grande, car elle peut être dedans cette arme. Elle peut peut-être se trouver dans ce paquet, cette carte. Du coup, vous craquez, vous achetez, vous ouvrez, et rien. Pas celle qu'il vous faut, en tout cas. Ça s'appelle une loot box. C'est ce type de récompense aléatoire que l'on achète avec de l'argent réel dans les jeux vidéo. Et c'est un sérieux problème si l'on écoute Romaine Darbelet, chargée de projet à Promotion Santé Valais. L'association a décidé de s'attaquer à ce phénomène en lançant une campagne de sensibilisation contre les loot box. Explication de Romaine Darbelet.
Alors, c'est un sujet assez méconnu du public, donc ça nous paraît intéressant de parler de cette thématique-là. On cible les parents, mais également les jeunes avec cette vidéo, vu qu'elle est animée, elle est inspirée des jeux vidéo. Et c'est très important pour nous de parler de cette thématique parce que on est inquiet, en fait, de voir les similitudes qu'il y a entre les loot box et les jeux de hasard et d'argent.
Ces similitudes dont parle Romaine Darbelet, ce sont surtout cette frustration de ne pas obtenir ce que l'on souhaite en ouvrant les récompenses, qui peut par la suite devenir très vite addictif. En effet, on cherche une carte ou une arme spécifique et on ne la trouve pas, donc on se dit qu'elle va être dans un autre paquet ou un autre coffre. Alors là, on cherche, on achète et là, l'engrenage est lancé. Pour contrer cela, trois vidéos explicatives sont proposées par Promotion Santé Valais. On retrouve Romaine Darbelet.
Il y en a une qui est pédagogique, qui explique ce que sont les loot box. Il y en a deux autres où on interview des experts On en a une avec Niels Weber, où on parle vraiment de l'aide qui peut exister pour ce genre de problématique. Niels Weber, qui est psychologue spécialisé en hyperconnectivité, qui connaît très bien les jeux, et Gabriel Torrance, qui est psychiatre au HUG, et qui lui aussi connaît très bien les jeux et qui suit des joueurs. Donc lui parlera beaucoup plus des mécanismes de dépendance, en fait.
Alors comment éviter en tant que parent que notre enfant ne dépense des mille et des cents en jouant à ce type de jeu? La réponse de Romaine Darbelay.
C'est vraiment important de s'intéresser à ce que font les enfants dans leurs jeux, de jouer même avec eux, de voir à quoi ils jouent, et puis de pouvoir simplement leur expliquer ce que sont les loot box. Finalement, si on veut utiliser des mots simples, c'est comme une pochette surprise. On va payer, mais on ne sait pas ce qu'il y aura à l'intérieur.
Et pour déjà entamer la discussion avec son enfant concernant ce type de pochette surprise virtuelle, les vidéos de prévention se trouvent sur les réseaux sociaux de Promotion Santé Valais ou alors sur le site tujoues.ch.
L'équipe du service de neurochirurgie du centre hospitalier du Valais-Romand est la première de Suisse à être entièrement formée à l'endoscopie pour les hernies discales lombaires. L'hôpital affirme dans un communiqué que cette solution chirurgicale mini-invasive permet une convalescence plus rapide et aussi peu de cicatrices, donc peu de saignements et de risques d'infection. Genève est sous le feu des projecteurs aujourd'hui et ce n'est rien de le dire. Joe Biden et Vladimir Poutine, deux des dirigeants les plus puissants du globe, sont réunis pour un sommet d'ores et déjà qualifié d'historique. Le dirigeant américain est arrivé hier, tandis que le président russe doit poser tout soudain, à environ de 12h30 normalement, le pied sur le sol suisse. Des journalistes du monde entier ont afflué au bord du lac pour couvrir l'événement. Parmi eux, il y a notre correspondante Hélène Yost qui s'est frayé un chemin à travers la cité de Calvin.
Genève s'est réveillée un peu engourdie ce matin, après une première journée agitée. En effet, l'arrivée hier de Joe Biden a déjà bien perturbé les habitudes de la ville. Nous en avions eu un aperçu quand, voulant rejoindre le centre de presse, nous nous sommes retrouvés bloqués par le passage de la délégation américaine. Aujourd'hui, moins d'effervescence au sein de la population qui semble s'être pliée aux appels à télétravailler et à éviter le secteur de la rade. Les rues du quartier sont ainsi inhabituellement calmes. Nous avons tout de même eu quelques difficultés à rejoindre le centre des médias en plein cœur du périmètre de sécurité. C'est le petit reproche que l'on pourrait faire aux organisateurs. Si du côté des délégations, tout semble réglé comme du papier à musique, du côté des journalistes, certaines informations ont beaucoup de mal à circuler. Mais au final, après avoir arpenté les rues adjacentes, nous avons trouvé un point de passage. Nous voici donc installés avec d'un côté le lac ainsi que l'emblématique jet d'eau et de l'autre côté la Villa Lagrange, écrin exceptionnel de ce sommet d'ores et déjà historique.
Ce Villa Lagrange est en effet devenu le centre du monde, ou presque, le temps de cette journée. Pour l'instant, ses abords semblent paisibles, mais tout devrait s'accélérer très prochainement. On retrouve Hélène Yost.
Différents horaires ont circulé, mais il semblerait désormais que le planning soit le suivant. Vladimir Poutine est attendu à l'aéroport de Genève aux environs de 12h30. Direction ensuite la Villa Lagrange où il rencontrera Guy Parmelin et surtout Joe Biden. Une photo est prévue aux alentours de 13h25. Puis place au sommet à proprement parler qui devrait durer environ 5 heures. On sait que la bâtisse a été divisée en deux, chaque délégation occupant la moitié des locaux. On ne sait en revanche pas vraiment de quoi les deux présidents vont parler. L'objectif affiché des deux côtés est celui de stabiliser les relations entre Moscou et Washington, alors que les sujets de tension sont nombreux. On peut citer, par exemple, le souhait affiché par Joe Biden de traiter du thème des droits humains, un sujet que Vladimir Poutine refuse d'exposer à ce qu'il considère comme une ingérence étrangère. Dans cette optique, la question d'un échange de détenus pourrait être abordée comme un geste de bonne volonté des deux parties. Chaque chef d'État devrait ensuite prendre la parole publiquement pour clore le sommet lors d'interventions séparées.
Notons également que le président de la Confédération, Guy Parmelin, et le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, rencontreront Vladimir Poutine en fin de journée. Un point presse est prévu à 19h30.
Le paquet d'aide aux médias est sous toi.
Le Conseil national a éliminé aujourd'hui la dernière divergence avec les chambres des cantons. Le paquet prévoit une aide totale de 150 millions de francs pour l'aide indirecte à la presse écrite et l'aide aux médias en ligne. Une disposition concerne l'aide aux start-up. Elle prévoit des accès à l'aide à des conditions spéciales pour les nouveaux médias en ligne dont le chiffre d'affaires est inférieur au minimum stipulé par la loi. Le projet étend également l'aide indirecte à la presse à travers la loi sur la poste. À l'avenir, la distribution matinale des journaux devra aussi être soutenue. Une enveloppe de 120 millions est prévue pour la distribution régulière et matinale des quotidiens des hebdomadaires en abonnement, ainsi que pour la presse associative et celle des associations. Le texte contient aussi une clause dite de holding qui vise à établir un équilibre équilibre entre les grands éditeurs et les petits fournisseurs de médias afin d'éviter une concentration encore plus importante de ce secteur. Le projet doit encore être accepté en votation finale vendredi. Le projet de prévention du tabagisme Expérience non-fumeur s'arrête après 21 ans d'existence et va laisser la place à un nouveau concept. Il proposait chaque année à des classes de ne pas consommer de produits du tabac pendant 6 mois. Des centaines de milliers de jeunes ont participé à l'expérience, indique dans un communiqué aujourd'hui l'Association suisse pour la prévention du tabagisme. Pour la prochaine année scolaire, une nouvelle offre sera mise en place dans l'enseignement du secondaire 1 dans le cadre du programme pour l'enfance et la jeunesse du Fonds de prévention du tabagisme. Les enfants, les jeunes et le personnel enseignant seront impliqués dans sa conception. L'indication géographique protégée d'absinthe Val de Travers est annulée par le tribunal administratif fédéral. Ce dernier estime que certains petits producteurs ont été discriminés. Cette décision n'est pas définitive et peut être attaquée devant le tribunal fédéral. En juin 2016, l'association interprofessionnelle de l'absinthe a déposé une demande d'IGP auprès de l'Office fédéral de l'agriculture. Ce dernier a admis son inscription au registre des appellations d'origine et des indications géographiques en février 2017. L'association des artisans distilleurs d'absinthe du Val de Travers et 14 particuliers, en majorité des membres de l'association, ont attaqué cette décision en mai 2017. Déboutés par l'OFAG, ils se sont tournés vers le TAF.
Carnet rose, deux guépards sont nés à la fin du mois d'avril aux eaux de Bâle.
Ce sont les 29e et 30e naissances de cette espèce de félin au jardin zoologique de la cité rhénane. Les deux guépards n'ont pas encore de nom. Il s'agit d'un mâle et d'une femelle, indiqué aujourd'hui le zoo de Bâle. C'est la première portée de la femelle d'Inage et de 3 ans qui est arrivée à Bâle en novembre dernier. Les visiteurs peuvent voir les deux jeunes dans l'enclos extérieur. À l'étranger, le jeu vidéo Cyberpunk 2077 va réintégrer lundi prochain la boutique en ligne PlayStation Store de Sony, dont il avait été retiré en décembre dernier en raison d'une cascade de défauts peu après son lancement très médiatisé. Moins de 10 jours après sa sortie en décembre, Sony avait décidé de retirer Cyberpunk de son offre sur PlayStation Store. Le temps que CD Projekt Red apporte des correctifs, le studio polonais avait retardé plusieurs fois la sortie de ce jeu techniquement très ambitieux à très gros budget, travaillant dans l'urgence pour le lancer juste avant les fêtes de fin d'année.
La Hongrie a adopté hier un texte interdisant la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs.
Ceci suscite l'inquiétude des défenseurs des droits, alors que le gouvernement souverainiste de Viktor Orban multiplie les restrictions visant la communauté LGBT. Des séries comme Friends ou des films comme Bridget Jones ou Billy Elliot, dans lesquels l'homosexualité est évoquée, pourraient être interdits aux mineurs, s'alarment les ONG. Des milliers de personnes étaient descendues lundi soir dans les rues de Budapest, déployant un grand drapeau arc-en-ciel devant le Parlement pour fustiger les cruelles campagnes politiques au pouvoir. Le coronavirus était présent aux États-Unis depuis au moins décembre 2019, soit des semaines avant le premier cas confirmé en janvier 2020, selon une étude. La porte d'entrée du virus ne se trouvait cependant pas à New York, mais dans l'Illinois et le Massachusetts. Les restes d'un troisième étudiant faisant partie d'un groupe de 43 disparus en 2014 dans le sud du Mexique ont été identifiés, a annoncé hier une organisation de défense des droits de l'homme. Ils ont été identifiés par l'université d'Innsbruck à partir de restes osseux découverts à Colucua, dans le Guerrero. Les identités de deux autres étudiants avaient déjà été reconnues par la même institution. En décembre 2014, 43 jeunes s'étaient rendus à Igala, dans l'état de Guerrero, pour réquisitionner des autobus, avec comme objectif de se rendre à Mexico. Ils avaient été arrêtés par la police avant de disparaître. Les autorités avaient jusqu'ici accusé un cartel de trafiquants de drogue. La Nati défie l'Italie ce soir dès 21h pour son deuxième match de 7 euros. Les hommes de Vladimir Petkovic retrouveront sa voisine transalpine. C'est la première confrontation entre les deux formations dans une phase finale d'une grande compétition depuis 59 ans. Mais outre l'aspect historique, la Nati devra rendre une copie sans trop d'erreurs sur la pelouse du stade olympique de Rome si elle entend se donner une chance pour de l'emporter. De leur côté, les Italiens sont bien rentrés dans 7 euros avec un succès 3-0 en ouverture face à la Turquie, tandis que la Nati a été tenue en échec par le Pays de Galles. L'enjeu sera donc de taille pour l'équipe nationale qui s'attend à une rencontre difficile face à un adversaire de qualité.
Participer à l'Euro, c'est déjà un grand défi. D'y affronter l'Italie, l'une des équipes favorites de cette compétition, qui plus est à Rome, c'est forcément spécial. Surtout qu'ils ont réalisé une très belle campagne de qualification. Ce sera donc un très beau défi pour nous. Il faut aussi que nous réglions la question de la stratégie pour tenter de s'imposer face à la formation transalpine. Nous espérons donc que tout se passe bien et que nous puissions gagner ce match, mais aussi le suivant.
Des propos recueillis par nos confrères de la RTS. Italie-Suisse est donc ce soir au stade olympique de Rome. Une rencontre de le coup de voix sera donnée à 21h dans la capitale transalpine.
En football, toujours, la prochaine destination de Benjamin Cololi n'est toujours pas connue.
Le Bellerin est arrivé à la fin de son contrat qui le liait au FC Zurich depuis 2018. 3 ans à 87 matchs plus tard, le Chablaisien est libre de tout engagement. Mais à l'heure de la trêve estivale, son prochain défi n'est pas encore fixé. Des discussions en interne sont actuellement en cours, mais aucun choix n'a pour l'heure été pris. Une situation qui dure depuis la fin du dernier exercice, il y a presque un mois. Benjamin Cololi revient ce qui s'est passé durant cette période.
Depuis le début de la fin en fait, du championnat, j'ai eu un peu des trucs qui ont commencé, donc en Suisse, etc. Et puis là, gentiment, ça a commencé à bouger à l'étranger. Voilà, c'est un peu compliqué. Je pourrais te raccrocher peut-être avec toi maintenant, puis dans la seconde qui suit, il y a un mec qui m'appelle, qui me dit que voilà, le club me veut absolument, l'entraîneur me veut absolument, il faut qu'on se voit, etc. Donc vraiment, ça peut venir dans 2 mois. Donc voilà, je suis positif. Là, je sens que ça commence un peu à bouger et puis qu'il y a des choses qui commencent à se concrétiser. Donc, j'espère que dans les semaines à venir, bah, tu vas me redemander un coup de fil et puis discuter justement du choix que j'aurais fait par l'avenir, etc.
Terminer une saison en étant libre de tout engagement, c'est la situation de Benjamin Cololi. Une situation qui n'est forcément courante et qui peut avoir son lot de désagréments. Offre non concluante, peur de ne rien recevoir, les interrogations sont nombreuses. On retrouve Benjamin Cololi.
C'est énormément de questions en fait qu'on se pose, qui nous viennent en tête en fait, parce que c'est une situation, comme je l'ai dit, qui est exceptionnelle. Donc voilà, moi je l'ai bien vécu au début. Après, j'ai eu une petite période où voilà, je me disais c'est quand même chaud parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'on peut signer à l'euro en plus, donc on sait que les transferts vont peut-être être un peu plus tard. Puis voilà, après, moi, je dis toujours, j'espère tout simplement faire le meilleur choix pour moi, pour ma carrière, etc. Je suis pour l'instant serein, j'attends la meilleure opportunité qui s'offre à moi, et puis bah, quand j'aurai fait un choix, bah, j'espère que ce sera le meilleur choix possible.
Même si pour l'heure, la prochaine destination de Benjamin Cololi n'est pas encore connue, les choses pourraient rapidement évoluer. Reste que le Bellerin ne ferme la porte à aucune offre, pas même à un défi sur un autre continent. Un sujet signé Ludovic Turin. Les Jeux Olympiques se rapprochent. Le gouvernement japonais pourrait limiter le nombre de spectateurs à 10 000 après la fin de l'état d'urgence sanitaire le 20 juin. Les organisateurs des JO de Tokyo envisagent également une jauge. Le projet, qui ne concerne pas uniquement les événements sportifs, limiterait le nombre de spectateurs à 50% de la capacité d'un site ou à 10 000 personnes maximum. Ce schéma pourrait fixer les limites d'une décision des organisateurs des JO sur le nombre de spectateurs locaux, s'il y en a. Pour rappel, en mars, la décision d'interdire des spectateurs venant de l'étranger avait été prise.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.
La météo avec Néo, agence immobilière sans commission. Estimez votre bien sur néo.ch.
Un temps ensoleillé et très chaud, c'est ce qui nous attend pour cet après-midi avec le développement de cumulus sur les reliefs et des orages ne sont pas impossibles. Sous les cumulus les plus importants, il va faire jusqu'à 29 degrés en pleine aujourd'hui, 26 à 1000 mètres pour demain. Le temps sera encore ensoleillé et chaud et l'après-midi, des cumulus vont bourgeonner sur les reliefs. Ces cumulus vont causer des orages ou des averses à partir de la fin d'après-midi et même une partie de la nuit. Et ça va concerner tant la montagne que la plaine. Il va faire demain au maximum 29 degrés en plaine, 27 à 1000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.